Bonjour à chacun. La Bible nous révèle que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a créé l'univers, il a créé les êtres humains, il nous a créés en tant qu'individus dans un but précis. Mais la Bible nous révèle que malheureusement, les êtres humains se sont tous détournés du but initial de Dieu, à tel point qu'ils se sont égarés loin de Dieu et qu'ils se sont perdus. Les hommes se sont perdus, ils sont loin de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, est venu les chercher. Dieu s'est fait homme afin de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont sauvés par Jésus. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Mais Dieu n'est pas venu nous chercher pour rien. Dieu a un projet pour nous. Dieu nous a créés, il nous a choisis, il nous a cherchés, il nous a sauvés afin que nous atteignions le but qui nous a fixé. Plusieurs passages de la Bible, mais en particulier le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, nous éclairent sur le but pour lequel Dieu nous a sauvés. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. En Christ, nous avons été désignés comme héritiers pour servir à célébrer sa gloire. Nous avons été créés, nous avons été choisis, nous avons été sauvés pour célébrer la gloire de Dieu. Adorer Dieu, célébrer la gloire de Dieu est notre but, notre mission, notre vocation. Bien des gens ignorent quel sens donner à leur vie. Ils ignorent pourquoi ils sont vivants, dans quel but, pourquoi faire. Eh bien, nous, nous le savons, notre but, notre mission sur terre, comme notre but au ciel, est d'adorer Dieu. Nous savons pourquoi nous vivons. Nous savons pourquoi nous vivons, mais nous savons aussi comment nous devons vivre pour nous épanouir dans notre vie. Nous avons été créés dans un but, adorer Dieu. Nous sommes faits pour cela. Ce qui implique que c'est seulement en vivant en accord, en harmonie avec ce pourquoi nous sommes vraiment faits, que nous pourrons vivre pleinement. Un aigle est fait pour voler, loin au-dessus de la terre. Il est fait pour planer. Si on l'empêche de voler, il ne sera que l'ombre de lui-même. Un écureuil est fait pour grimper, pour bondir d'arbre en arbre. Si jamais on le contraint à vivre dans le désert ou dans une plaine sans arbre, il va dépérir. Mais si on le relâche en forêt, il va à nouveau s'épanouir. Eh bien, nous, nous sommes faits pour adorer Dieu. Cela signifie que nous nous épanouirons lorsque nous vivrons pleinement en accord avec ce pourquoi nous avons été créés, l'adorer et célébrer sa gloire. En nous créant pour l'adorer, Dieu nous accorde un privilège immense. Adorer Dieu, c'est prendre conscience de qui est Dieu et c'est lui rendre l'honneur et la gloire qui lui appartiennent. Psaume 29:1 nous dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Nous rendons gloire à Dieu lorsque nous réalisons qui est Dieu. Dieu se révèle à nous et en retour, nous rendons à Dieu ce qui lui appartient à lui seul, la gloire. Malheureusement, tous les êtres humains n'ont pas le privilège d'adorer Dieu. Ceux qui sont encore perdus et qui demeurent loin de Dieu adore peut-être un certain nombre de choses. L'homme semble le faire pour adorer. Ils adorent un certain nombre de choses, mais pas Dieu. Romains 1, 25 dit de tous ceux qui sont loin de Jésus, « Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent autre chose. Eux-mêmes, un faux Dieu, une personne, un animal, une idéologie, un travail, un loisir, une passion, peu importe. Bien des choses peuvent être bonnes et justes, mais seul Dieu peut être adoré, parce que seul Dieu mérite notre adoration. Adorer Dieu, rendre gloire à Dieu, est un privilège. Le privilège de ceux que Jésus est venu chercher et sauver. Le privilège de ceux dont le cœur a été touché par l'Esprit de Dieu et qui s'émerveillent en réalisant qui est ce Dieu qui les a créés. Un Dieu si grand, si parfait, que l'on ne peut que l'adorer et lui rendre la gloire qui lui est due. Nous avons parfois tendance à considérer qu'adorer Dieu, c'est dire à Dieu à quel point nous l'aimons et nous l'adorons. Alors, au travers des mots que nous exprimons, nous pouvons effectivement adorer Dieu, mais l'adoration va bien plus loin que cela. 1 Corinthiens 10, 31 dit « Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Chaque aspect de notre vie peut manifester notre adoration pour le Seigneur. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement lui exprimer par des mots que nous l'adorons. Adorer Dieu est un mode de vie. Je vis pour adorer Dieu. Alors, il y a toutes sortes de modes de vie. Il y a quelques années, on mettait surtout en avant le mode de vie pour le fun. Moi, je fais partie de cette génération-là. On vivait pour le fun, pour le plaisir. Il y a un mode de vie BCBG. Il y a un mode de vie écolo. Et depuis quelque temps, dans les médias, on essaye vraiment de nous inciter à adopter un mode de vie responsable, éco-responsable. Eh bien, les chrétiens ont aussi un mode de vie qui leur est propre. En tant que chrétien, mon mode de vie est l'adoration. Je vis pour adorer Dieu. Puisque l'adoration est la réponse de notre cœur qui a été touché par Dieu, la question que nous devons nous poser n'est pas « Pourquoi devrais-je adorer Dieu ?» mais « Comment vais-je adorer Dieu ?» Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Si vous avez une Bible comme celle-ci, c'est à la page 689. Évangile de Jean, chapitre 4. C'est un passage bien connu, c'est celui dans lequel qui nous décrit quand Jésus rencontre une femme samaritaine. Et le passage sur lequel nous allons nous concentrer, ce sont les versets 23 et 24. Jean 4, verset 23. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Notre passage dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Alors, puisque Jésus distingue les vrais adorateurs, cela implique qu'il y a donc de faux adorateurs. Il y a des personnes qui s'imaginent adorer Dieu, mais de son côté, Dieu ne les considère pas comme des adorateurs. Pour adorer véritablement Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Pas adorer Dieu seulement en esprit, pas adorer Dieu seulement en vérité, mais adorer Dieu en esprit et en vérité. Les deux sont indissociables. Les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, adorent Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu en étant en communion avec Dieu. Notre propre esprit est en phase, est animé par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9 nous dit « Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Pour adorer Dieu en esprit, il faut appartenir à Christ, il faut avoir reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, mais il faut aussi que nous laissions l'Esprit de Dieu renouveler et animer notre propre esprit. Nous avons donc besoin que ce soit Dieu ou l'Esprit de Dieu qui transforme et renouvelle notre esprit. Parce que notre intelligence et le monde qui nous a façonnés, le monde dans lequel nous vivons, sont loin de Dieu. Romains 12:2 nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas l'esprit du monde, celui dans lequel nous vivons, qui doit nous dire comment adorer Dieu. C'est Dieu lui-même, au travers de son esprit, qui doit transformer et renouveler notre esprit afin que nous soyons en mesure d'adorer et de glorifier Dieu. Les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu selon l'esprit du monde, mais selon l'esprit de Dieu qui vit en eux. Et que fait l'esprit de Dieu qui vit en nous? Le Saint-Esprit nous fait connaître la vérité. Ça, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu, nous faire connaître la vérité. Jean 14, 17 nous dit que Dieu nous a accordé l'Esprit de vérité. Et pour nous faire connaître la vérité, l'Esprit de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu. Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Et face à la vérité que Dieu nous révèle, nous devons de notre côté, nous aussi, être vrais. Nous devons être authentiques. Jacques 1:22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si nous pensons qu'adorer Dieu se limite à connaître la parole de Dieu, nous nous trompons, notre raisonnement est faux, nous ne sommes pas dans la vérité. Adorer Dieu, c'est plus que connaître Dieu, c'est croire en ce que Dieu dit et c'est vivre selon ce que Dieu dit. Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits et que nous avons tout compris, mais cela signifie que notre cœur est disposé à suivre Dieu. Ce que nous avons compris, nous cherchons à le mettre en pratique parce que nous aimons Dieu et que nous lui faisons confiance. Pour être de véritables adorateurs, notre vie tout entière doit porter la marque, produire les fruits de l'Esprit et de la parole de vérité qui est en nous. Jésus dit en Jean 18:8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » C'est en cherchant à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre propre vie que nous glorifions Dieu. C'est quand notre vie tout entière est motivée par la gloire de Dieu que nous sommes de véritables adorateurs. À nouveau, 1 Corinthiens 10, 31. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Les paroles que nous prononçons pour la gloire de Dieu. Nos relations affectives pour la gloire de Dieu. Notre sexualité pour la gloire de Dieu. La gestion de notre argent, pour la gloire de Dieu. L'utilisation de notre temps, pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés afin que par notre vie toute entière, nous adorions le Seigneur et que notre vie toute entière soit à la gloire de Dieu. Et ça, c'est très bien, mais hélas, notre propre expérience nous montre que même si on aime Jésus, notre vie n'est malheureusement pas toute entière à la gloire de Dieu. On aimerait adorer Dieu à chaque instant, mais ce n'est pas ce que nous vivons. Et ce constat d'échec peut nous rendre tristes, nous décourager, ou peut-être nous rendre amers. Amers face à ce Dieu qui attend tellement de nous. Tout faire pour sa gloire. Amers face à la vie ou face aux autres, qui nous empêchent de vivre notre vie comme nous le souhaiterions. Amers face à nous-mêmes et notre incapacité d'adorer Dieu constamment. Si nous éprouvons de la tristesse, du découragement, de l'amertume, lorsque nous réfléchissons à notre difficulté à adorer Dieu, nous devons nous rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure sur l'adoration. Adorer Dieu, c'est rendre à Dieu la gloire qui lui revient. L'adoration est la réaction de nos cœurs et de notre intelligence lorsque nous voyons Dieu tel qu'il est. L'adoration n'est pas un fardeau, n'est pas un devoir, mais l'adoration est la réponse de notre cœur lorsque nous rencontrons Dieu. La véritable adoration n'est donc pas quelque chose de lourd ou de pénible, mais quelque chose qui jaillit spontanément de nos cœurs lorsque nous prenons conscience de qui est Dieu. Nous ne pouvons rendre gloire à Dieu que si jamais Dieu s'est d'abord fait connaître à nous. D'abord, je reçois quelque chose de Dieu, et seulement parce que j'ai déjà reçu, alors je peux rendre quelque chose à Dieu. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut premièrement que mon propre esprit soit rempli par l'Esprit de Dieu, soit éclairé et nourri par l'Esprit de vérité. Et comment ou quels moyens Dieu utilise-t-il pour nous nourrir ? Par sa parole. La Bible est le moyen par excellence au travers duquel Dieu veut nous éclairer sur ce que nous sommes et sur ce qui il est. Quelle place avons-nous laissée à Dieu pour qu'il puisse nous parler et nous nourrir au travers de sa parole ? Dans nos agendas, quelle place avons-nous programmée pour la lecture et la méditation de la Bible ? Chaque jour, réservons-nous un moment de qualité pour qu'au travers de sa parole, Dieu puisse régénérer notre esprit. Avons-nous réservé un moment où nous sommes disponibles pour méditer sa parole en cherchant ce que Dieu veut nous dire personnellement, à nous, Dieu qui nous connaît. Avons-nous ménagé un moment béni où nous pourrons être renouvelés, nourris, remplis par la présence de Dieu ? Alors peut-être que nous n'avons rien programmé du tout parce que nous préférons saisir la meilleure opportunité qui se présente pour ouvrir notre Bible. Mais souvent, l'opportunité ne se présente pas. Et lorsque nous faisons le bilan de notre journée ou de notre semaine, eh bien, la lecture de la Bible, le temps de méditation personnelle, le tête-à-tête avec Dieu n'y figure même pas. Ce qui ne nous empêche pas des fois, par ailleurs, malgré tout, d'avoir eu du temps pour programmer un peu de télévision ou un peu de loisirs. Nous devons faire de notre rencontre avec Dieu notre priorité. Sinon, elle ne se produira pas. La rencontre ne se produira pas. Et nous ne pourrons rendre gloire à Dieu que si jamais nous avons d'abord rencontré Dieu et que nous avons été enrichis et nourris par Dieu. Si notre esprit n'a pas été nourri par la parole de vérité, si notre esprit n'a pas été renouvelé par l'Esprit de Dieu, cela va avoir des conséquences dramatiques sur notre adoration de Dieu. Et sans nous en rendre compte, nous allons passer à côté du plan de Dieu pour nous. Si nous n'allons pas nous nourrir auprès de Dieu, nous aurons deux attitudes possibles, mais aucune ne nous conduira à la joie et à l'épanouissement que nous procure la véritable adoration. La première attitude fait de nous des gens religieux au cœur partagé. Nous ne sommes plus de vrais adorateurs. Si nous n'avons pas fait le plein auprès de Dieu, notre esprit n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. L'adoration ne jaillit donc plus spontanément de notre cœur. Adorer Dieu devient alors une activité religieuse à laquelle nous pensons de temps en temps, et en particulier lorsque nous venons à l'Église. Nous adorons Dieu à l'Église et lorsque nous entendons parler de Dieu, mais le reste du temps, nous ne sommes pas des adorateurs. Nous vivons en chrétien le dimanche, mais comme les non-chrétiens en semaine. Nous sommes alors partagés, nous ne sommes plus vrais. Adorer Dieu en vérité n'est malheureusement plus notre mode de vie, mais un acte artificiel. Nous vivons une sorte d'hypocrisie religieuse et nous devenons des chrétiens sans saveur, sans consistance. Nous ne vivons pas cette vie exaltante d'adoration à laquelle nous sommes appelés. La seconde attitude fait de nous des chrétiens épuisés, découragés, aigris. Pour certains d'entre nous, même si nous ne prenons pas le temps d'être ressourcés auprès de Dieu, nous conservons malgré tout comme objectif d'adorer Dieu. Nous savons que notre vie tout entière doit être un acte d'adoration. Mais comme nous n'avons pas fait le plein auprès de Dieu, l'adoration ne jaillit plus spontanément de notre cœur. Aimer Dieu devient un devoir, un fardeau bien lourd à porter. Adorer Dieu n'est plus le fruit de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Adorer Dieu devient une œuvre que nous essayons de produire par nos propres efforts, nos propres capacités, afin de plaire à Dieu. Nous essayons d'adorer Dieu en vérité, mais nous le faisons en comptant sur nos propres forces, sans nous appuyer sur l'Esprit de Dieu. Alors nous allons nous épuiser, nous décourager, et malgré notre attachement à la vérité, nous éloigner de Dieu. Adorer Dieu en esprit n'est malheureusement plus notre mode de vie, et nous ne comptons plus que sur nous-mêmes. Nous ne goûtons plus à cette saveur d'adorateur pour laquelle nous avons été créés. Aucune de ces deux attitudes ne nous permettra d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons adorer Dieu que si, avant toute chose, nous prenons la peine et le temps d'aller nous nourrir auprès de Dieu, afin que par son esprit, il nous remplisse, il nous parle et qu'il fasse jaillir en nous l'adoration. Si nous voulons connaître, goûter, savourer cette vie d'adorateur et nous épanouir dans cette vie à laquelle nous sommes appelés et pour laquelle nous avons été créés, nous ne devons pas chercher à nous vider, mais à nous remplir. Nous devons chercher, rechercher la présence de Dieu. Nous devons être disposés à ce que Dieu nous parle, nous éclaire, nous renouvelle. Et c'est alors seulement que de notre cœur jaillira notre adoration, et que nous aurons le désir de faire de notre vie tout entière un acte d'adoration. L'adoration n'est pas une œuvre que nous devons produire par nos propres forces, mais le fruit, la conséquence de notre proximité avec Dieu. En résumé, nous avons été créés, choisis, sauvés pour adorer Dieu. C'est notre mission, c'est notre vocation, c'est notre raison d'être. Adorer Dieu est un privilège réservé à ceux dont le cœur a été touché par Dieu. L'adoration n'est pas un acte artificiel, mais l'adoration de nos cœurs, enfin jaillit de nos cœurs, lorsque nous rencontrons Dieu. Pour adorer Dieu, nous devons d'abord chercher à rencontrer Dieu. Adorer Dieu n'est pas un acte religieux, c'est un mode de vie. Nous vivons pour adorer Dieu. L'adoration est un mode de vie où nous sommes vrais, authentiques. Nous adorons Dieu à l'église, mais nous adorons aussi Dieu dans notre vie de tous les jours. Adorer Dieu est le seul mode de vie qui nous permettra de vivre pleinement et de nous épanouir, parce que nous sommes faits pour cela. C'est cela qui nous correspond. Nous avons été créés, choisis, sauvés pour cela, pour adorer Dieu. Verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Notre Dieu, notre Père, est à la recherche de véritables adorateurs. Allez-vous venir à la rencontre de votre Dieu? Allez-vous adopter le mode de vie pour lequel vous avez été créé? J'aimerais prier. Seigneur de vivant, tu es le Dieu créateur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous as prouvé, Seigneur, que tu nous aimais et tu nous as montré à quel point, Seigneur, ton désir pour nous était que nous puissions être en communion avec toi. Si, Seigneur, cette vie pleine et entière à laquelle tu nous as appelés, la vie éternelle, cette vie où nous pourrons constamment t'adorer, nous émerveiller, parce que nous te découvrirons tel que tu es vraiment, te prions, Seigneur, pour que tu nous aides dès à présent à pouvoir en goûter les premiers fruits. Aide-nous, Seigneur, à faire de chaque jour des moments délicieux, des moments bénis d'adoration. Seigneur, il est si difficile en ce monde de savoir des fois nous arrêter, de mettre un temps à part. Et nous, Seigneur, à pouvoir mettre ce temps à part. Et ce qui est réjouissant, Seigneur, c'est que tu nous promets que tu te laisseras trouver par tous ceux qui te cherchent. Aussi, Seigneur, nous avons confiance que si jamais nous mettons un temps à part, toi, tu seras là. Nourris-nous, Seigneur. Parle-nous. Révèle-toi à nous, afin que nos cœurs puissent avoir la joie de t'adorer. Amen.